vue d'ensemble de l'actualité.
So the report did not conclude that he did not commit obstruction of justice. Is that correct?
That is correct.
And what about total exoneration? Did you actually totally exonerate the president?
No.
Réville PM.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'ex-procureur spécial Robert Mueller. Ce matin, on disait Mueller Time, qui était ce matin devant le comité de la justice du Congrès américain. Là, pendant qu'on essayait un matin désespérément de monter une émission qui se tenait à peu près de bout, moi, j'avais... Tout le monde m'a posé des questions, je répondais à rien. J'avais l'écran devant TV. D'abord, vous avez 50 TV dans chaque pièce à Cogeco. Et puis, sur chaque TV, il y avait la face de M. Mueller. C'était passionnant pendant un bout, mais j'avais l'impression que les démocrates posaient tout le temps la même question, puis les républicains posaient tout le temps une autre question, avec chacun leur but pas tellement caché, je trouve. Fait que là, il a répondu aux questions des élus sur son fameux rapport à propos de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Nous autres, on va en parler avec nos collègues Annie Guillemette et Valérie Beaudoin. Annie, tout d'abord, Robert Mueller, donc, on l'a entendu, il contredit le président Trump.
Le président qui n'a pas été exonéré de tout blâme en matière d'ingérence ou plutôt d'obstruction à la justice.
Il n'a jamais été.
Non, c'est ça.
Contrairement à ce qu'il tweet.
Exactement.
74 fois contredit, par matin.
Là. Effectivement, parce qu'il a tweeté à quelques reprises. Il a même parlé de possibles accusations après son mandat. Donc, une accusation.
Ça, c'est nouveau, ça.
Ça, c'est... Ben, Valérie va nous dire c'est vraiment, vraiment nouveau, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas effectivement entendu souvent. Quand même, 3h30 et même plus de témoignages ce matin. Et ce qu'on a beaucoup vu, Dan, c'est le nombre de fois où Robert Mueller n'a pas répondu à la question. Il y a des journalistes qui ont compté et ils ont arrêté de compter à 100 fois.
Okay.
Le nombre de fois.
Cette question-là, je n'y répondrai pas.
Exactement. Il avait déjà, dans sa déclaration d'ouverture, averti qu'il ne pourrait pas répondre à certaines questions pour plusieurs raisons, souvent juridiques. Et il s'est très souvent aussi
Si les réponses sont dans son rapport, il a quand même répondu quelque part.
Il y a quand même des flous, des fois, dans le rapport ou des phrases qui laissent quelques questions en plan.
Est-ce qu'il est très caviardé?
Non, je ne crois pas.
Non, si je me permets, Dan. Non, exactement. Je voudrais quand même, on le comprend bien le rapport, là, même s'il y a des petits éléments qui sont caviardés comme des noms ou des éléments qui sont encore en cours en ce moment.
Okay. Ça, vous venez d'entendre Valérie Beaudoin, puis vous allez voir, je la lâcherai pas tantôt. Là. je trouve ça passionnant.
Elle comprend tout ce que M. Mueller a dit. Moi, je peux vous parler de l'ensemble, de l'enrobage.
Oui.
Et donc, il s'est très, très souvent aussi référé à son rapport, au texte du rapport, pour ne pas, bien sûr, se tromper ou être mal cité par la suite. J'ai fait un petit montage des réponses de Robert Mueller de ce matin. On l'écoute.
Exactement. Can you explain what you meant there?
I'm just going to believe it and as it appears in the report.
Correct.
Correct. I believe that to be true. I again go back to the text of the report. I don't want to speculate.
OK, ben il renvoie tout le monde à son rapport.
Lisez le rapport.
Arrêtez de me fatiguer là, allez lire le rapport là. C'est long puis je suis tanné.
C'est pas mal ça.
Il a la bouche un peu pâteuse.
En tout cas, il n'était pas nerveux. Il apparaissait pas très nerveux. Faut dire que cet homme-là
a fait la guerre du Vietnam. Oui. Des interrogatoires, il en a fait lui-même. D'après moi, il n'était pas en crise panique là. Puis au pire, j'écoute son élocution. Il a peut-être pris un petit scotch avant. Écoute, on fait ce qu'on peut pour se relaxer. Ben, quelque chose
ça a commencé à 8h30 ce matin quand même. Mais bon, j'irai pas là-dedans.
J'imagine que les membres du comité ont profité de l'occasion pour mettre leur opinion politique en valeur.
Ben oui.
Ça sert à ça, hein?
C'est pas nécessairement une opération d'information qui se passait aujourd'hui. C'est beaucoup aussi une opération politique. Donc, oui, les démocrates ont mis en valeur l'engagement, l'impartialité de Robert Mueller. Les militaires, on l'a dit, il a fait le Vietnam, l'ancien directeur du FBI, tout ça. On a essayé de lui faire parler de procédures de destitution à propos de Donald Trump. Jamais il n'a prononcé le mot « impeachment ». Jamais, jamais, jamais. Il proposait que la personne qui pose la question le dise à sa place même. Il n'a vraiment pas voulu embarquer là-dedans. Cependant, il a répété là, que le président pourrait faire face à des accusations à la suite de son mandat. Ça, il l'a dit à plusieurs reprises, mais sans aller plus loin, sans donner de détails. Il a juste dit qu'on accusait à peu près jamais un président en fonction, mais qu'après c'était quelque chose de possible. Pour les républicains, ben eux, les questions étaient beaucoup en lien avec des contradictions, des possibles contradictions mm-hmm. qu'ils ont relevées dans le rapport. Certains ont aussi tenté d'aller plus loin, de savoir pourquoi un témoin, un autre, a été accusé alors que le premier ne l'avait pas été. Bref, on a beaucoup demandé l'opinion et des détails d'enquête à Robert Mueller. Je vous ai fait un petit montage, encore une fois, d'un échange entre un membre du comité, c'est un républicain, Greg Stubbe, lui a relevé plusieurs éléments qui étaient laissés sans réponse. On parle entre autres dans cet extrait-là de Christopher Steele, qui était un joueur clé du début de l'enquête Mueller. On écoute ça.
I'm not going to answer that.
So you're not going to respond to any of the questions regarding Christopher Steele?
That was one of the investigations that I could not speak to.
Well, I don't understand how, if you interviewed an individual in the purview of this investigation that you're testifying to us today, that you've closed that investigation, how that's not within your purview to tell us about that investigation.
I have nothing to add.
Okay, well, I can guarantee that the American people want to know.
Oh. C'était insistant un peu, puis il veut rien savoir. Son rythme cardiaque n'a pas levé une seule seconde. Merci beaucoup, Annie. On parle avec notre chère Valérie Beaudoin, qui est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Durand, puis chroniqueuse à Weekend Extra au 98.5 FM et que je croise tous les jours ici. C'était quoi le véritable objectif là, de le faire témoigner devant le Congrès? C'était-tu vraiment de la grande information?
Je pense pas qu'on s'attendait à avoir de grandes déclarations et c'est pas ce qu'on a eu jusqu'à maintenant non plus. Il l'avait dit, Mueller, faut le dire, dans sa seule sortie qu'il avait fait après la publication de son rapport, il avait dit, écoutez, mon témoignage, c'est mon rapport de 448 pages. Attendez-vous pas à plus. Et c'est ce qu'on a vu. Annie l'a bien expliqué juste avant. Il était très concis dans ses réponses. C'était vraiment un moyen, un effort pour les démocrates de gratter un peu sur les bobos qu'il y a dans le rapport. Toutes les notions d'obstruction à la justice, cette zone grise-là où finalement Mueller dit, ben écoutez, je peux pas innocenter totalement le président. Alors on a vraiment voulu gratter.
C'est même pas totalement. Je peux pas l'innocenter.
Exactement.
Arrêter. C'est beaucoup plus précis, ça.
Je peux pas l'innocenter. C'est vrai. C'est exactement ça qu'ils ont dit. Alors, on voulait vraiment aller là-dedans en demandant, ben écoutez, si c'est un simple citoyen ordinaire, finalement, est-ce que vous l'auriez accusé ou pas? C'est vraiment ça le nerf de la guerre du côté des démocrates. Aussi, de pousser l'agenda de la destitution ou non. Est-ce qu'il y a des raisons de destituer le président américain? Mueller, on a essayé de lui faire dire. Il a dit, je dirai pas le mot, je vais vous le laisser le dire. Alors, on voit qu'il était extrêmement prudent. Et du côté des républicains, bien sûr, on a essayé de discréditer au maximum Robert Mueller et son équipe. Et je dois dire que c'est à ce moment-là que c'est la seule fois qu'on l'a vu un peu hausser le ton et s'énerver quand il a voulu défendre son équipe parce qu'on les accuse d'être les « angry Democrats », comme Trump le dit souvent sur Twitter, que c'est des démocrates fâchés qui font une chasse aux sorcières. Il a dit « mon équipe est intègre, je n'ai pas à leur demander pour qui ils votent, s'ils encourageaient la présidence d'Hillary Clinton ou non. Mon équipe est intègre, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, j'ai jamais eu à poser une question politique aux membres de l'équipe avec laquelle je travaille. » Donc, il s'est défendu. Il a surtout défendu les siens à ce moment-là.
Alors, il a été très clair aussi.
Oui, oui, tout à fait. Il a dit, nous,
parce
écoutez, on a un travail à faire.
Le but des républicains, c'est d'alimenter les tweets de Donald Trump. Puis le but de M. Mueller, c'est de ne pas le faire.
Oui, tout à fait. C'est un homme... très intègre, qui n'aime pas ça, avoir toute l'attention sur lui. Et c'est pour ça qu'il y avait des réponses concises. Il n'était pas là pour faire de la politique. Au contraire, les démocrates et les républicains l'étaient totalement en train d'en faire.
Est-ce que Mueller a parlé du danger de l'ingérence russe sur la démocratie américaine?
Oui, il en a parlé. Ça, je pense que c'est vraiment clé dans ce qui a été dit ce matin et ce qui continue cet après-midi, parce que là, on est devant un deuxième comité sur le renseignement. Ça se passe en ce moment, au moment où on se parle. Et je vais vous faire entendre rapidement une des déclarations de Robert Mueller qui était très importante aujourd'hui.
Over the course of my career, I have seen a number of challenges to our democracy. The Russian government's effort to interfere in our election is among the most serious. And as I said on May 29th, this deserves the attention of every American.
Donc, l'ingérence russe, lui, c'est une des plus grandes menaces à la démocratie. Il l'a répété qu'il y a bel et bien eu ingérence. Faut pas l'oublier, même si parfois le président, quand il rencontre Vladimir Poutine, l'oublie. Mais ça, c'est vraiment à surveiller. Et d'ailleurs, pour l'élection en 2020, je peux vous dire qu'on surveille beaucoup l'ingérence, la possible encore ingérence russe dans l'élection américaine. Alors, on va continuer d'en parler.
Ce qui est moins démontré, c'est la complicité avec l'équipe de Trump.
Exactement.
Dans cette affaire-là. Ceci dit, moi, je sais pas, je vais juste essayer de penser logiquement ou comme un citoyen normal, je me dis, si il y a tant de membres de son équipe qui sont accusés, puis même qui ont été reconnus coupables de cette collusion-là, de son équipe, pour le favoriser, lui. Mais lui, pas de problème. Il y a une logique qui ne fonctionne pas quelque part, là.
Je pense qu'on l'accueillait surtout bien, l'aide des Russes. Hein, par moment, il disait, si vous avez de l'information sur Hillary Clinton, il avait déclaré publiquement. Donnez-moi-la, il n'y a pas de problème, on va être content de la voir. Alors, je pense qu'on accueillait surtout bien cette aide-là des Russes, mais aujourd'hui, il trouve ça un peu moins drôle parce que ça rend un peu moins légitime sa présidence. Et ça, il n'aime pas ça. Alors, il dit qu'il a gagné seul cette élection en 2016, qu'il n'y avait pas de l'aide de personne. Et bien sûr, c'est la fameuse chasse aux sorcières. Je ne pense pas que cette rhétorique-là
va se terminer bientôt. Non. Ce que je comprends pas, c'est que n'importe quel autre politicien ferait ça, il se ferait pendre publiquement. Lui, mais tout ce qu'il fait, ça passe.
Trump est de Teflon. Sa base électorale, peu importe qu'on parle d'allégations au niveau sexuel, financier, politique, la base, elle reste là, derrière lui. Alors, vraiment...
Il l'a dit lui-même, il pourrait commettre un meurtre dans le milieu, sur une rue de New York, puis il ne perdrait pas un seul vote. C'était Annie Guillemette, qui est journaliste à Cogeco Nouvelles, et Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire à Aude-Landurant, chroniqueuse à Weekend Extra au 98.5 FM. Merci beaucoup, toutes les deux.
Merci.
C'était très éclairant, en autant que c'était éclairant, l'exercice qui se passait. Après la nouvelle, une nouvelle qui m'a fait chaud au cœur ce matin, puis au retour, on va parler avec M. Ballon. Là, je suis content. Après la pause.